Merci Benoît. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième table ronde consacrée à la CTI, opportunités ou menaces pour la protection. Alors je suis désolé Ronan, il n'y a que de l'eau plate. Aujourd'hui ce sera donc au pain sec et à l'eau. Il faut manifestement digérer, mais ceci dit, vous me donnerez la marque, ça donne de très bonnes idées. Nicolas, votre approche traite la CTI sous l'angle de l'intégration de la connaissance de la menace dans les processus opérationnels des différents niveaux de l'organisation des entreprises, et une modélisation dynamique de l'attaquant se dessine, qui peut être confronté, qui a fait réagir d'ailleurs, et intégré aux représentations habituelles de la défense statique. Yvan, de votre côté, votre approche de la CTI vise à caractériser la fuite d'informations pour bâtir des réseaux de confiance des utilisateurs, et votre stratégie est de freiner ou de compliquer la tâche de l'attaquant, si je peux résumer ainsi votre intervention. Et donc Ronan, pour vous, la CTI, c'est une activité qui permet d'apprécier l'exposition d'un système aux menaces cyber, et vous analysez l'arrivée de la RGPD en montrant comment ça va compliquer la CTI. Vous proposez des pistes, effectivement, qu'on vient de voir à l'instant, et vous alertez notamment sur le risque induit que les moyens de protection de défense s'affaiblissent. Avant de discuter, et puis de laisser aussi d'ailleurs une place assez large aux questions de la salle, j'aurais voulu voir avec vous si vous partagez tous les trois, donc que ce soit à titre personnel ou au titre des travaux que vous menez dans vos entreprises, est-ce que vous partagez la même vision de la CTI? Est-ce que ça recouvre par exemple des outils et des bases d'informations aisément accessibles? Quelle est la part des sources d'informations institutionnelles et la part provenant de réseaux communautaires, y compris lorsque c'est autour d'une mousse, dans cette connaissance? Et est-ce que vous pensez que cette connaissance est suffisamment structurée et ouverte entre les acteurs intéressés? On a vu aussi que ça suscitait des questions de ce type-là. Qui est-ce qui veut commencer? Yvan?
Avec plaisir. Alors, d'abord, est-ce que nous partageons la même vision de la CTI? Bon, pour avoir la chance de pouvoir discuter avec mes deux amis à côté, oui, évidemment que nous avons la même vision, nous partageons les mêmes concepts. On a vu tout à l'heure Airbus a montré toute une présentation sur comment utiliser la threat intelligence et comment l'utiliser surtout dans le cadre de l'architecture, ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant, et évidemment que c'est quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que qu'on a une vision qui est, il y a des approches qui sont un peu différentes en fonction de, que ce soit avec nos compétiteurs américains ou dans d'autres pays, aux Russes. Il y a une approche qui est souvent, chaque pays permet des flexibilités qui leur permettent d'agir de manière un peu différente par rapport à la réglementation que nous, qu'on peut avoir en France. Et ce qu'on utilise tous traditionnellement, comme tu l'as dit Ronan, on a tous des bases qui permettent de collecter ces types d'informations. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Je dirais que grosso modo, chaque cellule est construite de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une base qui collecte, qui récupère l'information. Et le nerf de la guerre, c'est un peu de justement c'est ces sources de données qu'on va collecter, qu'on va enrichir et qui vont faire un peu cette différence. Donc et puis pour la question sur la côté institutionnel, ça c'est une très très bonne question, parce que je dirais que il n'y a pas tellement d'échanges en fait typiquement entre une entreprise, les entreprises privées et puis les institutions. Il y a un petit échange peut-être par moment, mais c'est vraiment une goutte d'eau. Et je dirais, contrairement par exemple à d'autres organismes américains ou autres, où on reçoit plus d'informations, hein, que ce soit de l'OTAN, que ce soit d'autres choses. Pour ma part, on reçoit beaucoup plus d'informations que par les institutions françaises. Je ne sais pas pour vous de votre côté.
Alors, j'ai commencé par la fin de ce que tu viens de dire. Je partage ce que vient de dire Yvan par rapport à ce qu'il existe, entre guillemets, une vie d'échange CTI en dehors de l'institutionnel. Aujourd'hui, la majorité des échanges qu'on a se font en dehors. On a plus d'échanges avec les acteurs, avec nos pairs, avec nos cercles, des intercercles, des relations qu'on a eu à voir, comme disait très très bien Ronan tout à l'heure, après de très très mûres réflexions en fin de soirée, par exemple. C'est quelque chose où finalement l'humain est quand même très très important. C'est, on va en reparler un petit peu après, je crois, mais on a besoin de partager avec des personnes ou des entités de confiance, et il faut d'abord la bâtir. Donc souvent ça se passe par par des réseaux que Yvan s'est très bien profilé d'ailleurs, mais ça se passe par des réseaux. Concernant sur les visions, globalement on en a discuté effectivement, comme disait Yvan, on se connaît, donc on partage une vision de la CTI qui est proche. On la consomme pas tous tout à fait de la même façon, mais la CTI en elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi elle peut servir, oui. La consommation est un petit peu différente. Et de notre côté, à propos des moyens, Yvan parlait d'une base. Je pense qu'il a fait le raccourci parce que ça fonctionne aussi pareil chez eux. C'est en fait, on a plusieurs bases. Comme le présentait Ronan, on fait la séparation des bases entre celles qui viennent de servir des collègues, celles où, entre guillemets, l'équipe pure de CTI a l'information, la collecte, finalement, c'est celle qui est la plus sensible d'un point de vue de la RGPD. Et puis, on a des bases. Ronan, tout à l'heure, est présenté au centre un MIS pour partager avec d'autres acteurs. Finalement, ça sont des bases où, comme il a dit, il a regroupé, c'est déjà un peu anonymisé, et on sépare. Il y a au moins deux grosses bases. La base, on va dire, de l'équipe pure de veille de CTI qui a plus d'informations. Et il y a les bases de mise à disposition des tiers où il y a déjà un travail d'agrégation, d'anonymisation, de regroupement qui est fait. Et voilà. Après, les moyens, bon, on n'en a pas parlé, mais il y a des gens qui sont là autour. Ils sont aussi quand même pas mal humains. Et il ne faut pas les oublier.
Du coup, sur la vision, bon, j'acquiesce encore une fois, on a à peu près la même vision. On a aussi une vision un petit peu transverse qui dépasse, on va dire, le simple cadre, on va dire, SSI pur opérationnel. Donc, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la présentation d'Airbus, c'est de dire, bah oui, la CTI, c'est pas que pour le SOC, ça va aider vos architectes. Moi, pas chez Kaspersky, mais dans un grand groupe du CAC 40, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 6 mois sur du FOVI. Et ben, j'ai essayé d'aller me déplacer avec mes petites pattes et d'aller voir le contrôle de gestion, d'aller voir les comptables, d'aller voir la DFA, etc. Et on a vraiment une vision transverse, même au-delà de la simple cyberdéfense. Et la threat intel, je pense qu'on la comprend. Comme on s'appuie sur le cyber pour récupérer des informations sur des menaces qui peuvent, donc des menaces cyber ou non, qui peuvent nous impacter. Ce qui n'est pas partagé, c'est vrai, par tout le monde, notamment, bah, on va dire, un petit peu par les instigateurs de la CTI qui sont les anglo-saxons. Et ensuite, sur les échanges institutionnels, en tant que Kaspersky, on va dire que c'est plutôt unilatéral. Et de toute façon, je pense qu'on n'a pas vocation à recevoir de l'information privilégiée des États hors cadre de coopération judiciaire pour notre cas. Après, d'un point de vue plus personnel, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, de cas où on va recevoir... Enfin, où certaines personnes vont recevoir d'institutions publiques des données, donc des indicateurs qui vont être classifiés, alors que ça fait un ou deux mois qu'on les a en OSINT. Et moi, j'ai rarement appris quelque chose depuis une interaction étatique, vraiment sur des indicateurs. Donc c'était via des chercheurs, c'était via de l'OSINT, etc. Par contre, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue personnel, ce que j'ai vraiment vraiment apprécié, c'est la présentation du retour d'expérience de TV5 Monde au STIC par l'ANSSI, qui la présente sur un cas vraiment vraiment difficile et sur des activités qu'au final, de la remédiation, etc. C'est des activités que tout le monde fait pas, et ce partage de bonnes méthodes et de win and fail, parce qu'ils ont été très honnêtes, on a pu vraiment l'apprécier. Et on sait que l'institution française a du mal à un petit peu à partager, ou on est un petit peu dans l'entre-soi, mais de façon, même dans le privé, c'est un peu toujours le problème des cercles, du cercle de confiance qui devient un cercle d'amis. Mais du coup, on sent qu'il y a du mieux, et on sent qu'il y a des efforts, et on sent qu'il y a des gens qui veulent faire bouger les choses.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Ronan, pour être honnête, il arrive même des fois qu'on se rende compte que l'information est des fois mieux partagée entre pairs externes qu'à l'intérieur d'une même organisation. C'est vraiment la partie humaine reste assez prédominante aujourd'hui.
Ce qui me fait m'interroger, en fait, finalement, c'est vrai qu'on partage la même vision, mais en fait, peut-être ce qui est intéressant, c'est je pense que la vision n'est pas forcément exactement la même pour justement des institutions, puisqu'en fait, souvent, ils opérationnalisent, je dirais, un peu la threat intelligence d'une manière un peu différente. Certains vont peut-être s'en occuper pour vraiment rechercher ou débusquer vraiment, je dirais, pour du renseignement. Peut-être certains feront tout ça pour de l'offensif, sur des choses comme ça. Donc, il y a peut-être un accès, une orientation de la threat qui est un petit peu différente selon certaines méthodes.
C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai fait alors je sais pas si c'est très pertinent, mais la différence entre cyber threat intelligence et renseignement d'intérêt cyber. Donc, enfin, il y a souvent le sujet de l'attribution qu'on vous parle chez les antivirus. Donc, enfin, pareil, on pourrait vous faire des heures et des heures de présentation là-dessus. On va dire un état qui fait de la CTI, lui, il va vouloir effectivement trouver l'individu, l'unité, l'organisation ou le pays responsable. Nous, en tant que chercheurs en sécurité informatique, c'est pas notre but. On doit protéger des systèmes d'information. Et donc, on a peut-être la même vision, on a peut-être des fois les mêmes process, mais on n'a pas forcément toujours les mêmes finalités. Et même des fois au sein du privé, puisqu'on on intervient pour des clients des fois un petit peu différents.
Alors, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas encore vu, la vidéo et la présentation de l'ANSSI est accessible sur YouTube. Effectivement, c'est très intéressant. Yvan, pour approfondir un petit peu notre sujet, vous réfléchissez à la construction de réseaux de confiance pour les utilisateurs et comment est-ce qu'on pourrait assurer objectivement, si tant est que ce mot veuille dire quelque chose, cette confiance face au risque cyber. Et je dirais que cette notion aussi de réseau de confiance, elle est importante également pour construire la CTI. Donc quels sont les écueils, on vient d'en évoquer quelques-uns, mais quels sont les écueils au partage de la connaissance sur la menace?
Ok. Comment là, on a construit, donc l'idée est un peu... Le nerf de la guerre, enfin, comme j'ai dit, c'est un peu les sources d'information, mais c'est aussi le partage. Et pour quand j'échange de l'information ou quand on récupère de l'information, j'ai deux métriques que je mets à chaque fois, qui est la confiance dans ma source d'information. Et puis, je suis persuadé, il n'y a pas eu de choses. Et puis, l'importance, en fait, de cette information à chaque fois, sur chaque information, quel score on met dessus. Et après, souvent, on réévalue le problème de l'information en elle-même en disant, est-ce que finalement, je prends l'exemple tout simplement, est-ce que c'est cette IP qui est méchante? Ou c'est parce que c'est l'ANSSI qui m'a dit que, c'est l'IP qui me dit que c'est quelque chose de raide, que c'est quelque chose de dangereux, qu'il faut pas que je communique? Ou alors, c'est parce que c'est ma source qui me l'a fournie, qui fait que cette notion commence à augmenter ma classification. Donc il y a tout un travail comme ça qui doit se mettre en place. Et donc dans ce réseau de confiance qu'on essaie de construire, on doit les prendre en compte. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que si par exemple dans mon réseau il faut être capable d'être un peu dynamique sur ces constructions de réseau qu'on essaye de voir, c'est dire un jour J, les informations venant d'un tel ont énormément de valeur. Le lendemain, dans un an, souvent c'est dans un an, je suis obligé de réévaluer pour savoir si finalement mes réseaux sont toujours aussi pertinents et si je ne dois pas les réévaluer. C'est toujours. Il y avait justement Ronan expliquait que souvent le renseignement c'est réenseigner. On a toujours ce cycle là qui est là où on dit j'ai établi quelque chose, je recommence et je me dis est-ce que dans quelque temps c'est fait ça. Donc il y a ces réseaux de confiance où je vais devoir leur mettre des quand on construit quand on déploie qu'on établit des liens entre différents organismes, on est obligé de mettre ce genre de choses là. Et c'est ce qui permet justement de faire face à peut-être des problèmes qu'on a souvent qui sont les faux positifs, des choses comme ça, disant finalement la personne que à l'instant T c'était très pertinent ce qu'elle me disait, mais finalement il y a eu quelque chose, donc je diminue mon réseau. Après, il faut être capable d'être sûr de protéger ce lien là. Donc c'est pour ça qu'il y avait on a vu un peu dans ma présentation justement tous ces comment on pouvait peut-être attaquer. Il y a d'autres recherches justement qui sont dessus, c'est savoir comment comment dire, est-ce que j'aurais pas quelqu'un, une taupe ou quelqu'un qui serait là pour perturber l'information dans mon réseau? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde justement parce que vous savez très bien que le plus en plus, maintenant, il y a la menace qui était traditionnellement, qui était l'APT, ce genre de choses. En 2015, ça a changé, on était un peu sur du sabotage. Et maintenant, le truc du moment, c'est surtout la menace interne, qui a toujours plus ou moins existé. Et la menace interne, c'est finalement, c'est est-ce que j'ai pas quelqu'un au milieu qui est en train de me polluer ma source d'information, qui est en train de me mettre des abrutis, ou de m'enlever quelque chose d'important. Donc il y a ce travail-là qui est évidemment à essayer de prendre en compte dans la construction de notre réseau. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Sinon, il y a une autre dimension également qui est dans la ligne de ce que vous évoquez, c'est que la propagation ou l'échange de cette connaissance, ça entraîne aussi en creux la diffusion, la fragilité des systèmes. Et donc, dans ce domaine-là, c'est valable dans d'autres aussi, mais dans le domaine de la CTI, donc, quelle piste finalement vous auriez ou vous proposeriez pour répondre à ces objectifs contradictoires, donc partager la menace sans dévoiler les failles?
Ça, c'est
un sujet de philosophie.
Alors, on pourrait dire effectivement c'est une sorte de sujet philosophique. Moi, j'ai tendance à dire qu'on pourrait prendre le même sujet philosophique entre est-ce que c'est plus sécur d'avoir un code source logiciel, un logiciel fermé, par rapport au code source logiciel, un logiciel open source sur lequel est disponible. On est un petit peu sur le même type de philosophie, si je puis dire. Et la réponse, elle n'est pas aussi binaire, que ça. C'est pas noir ou c'est pas blanc. Globalement, le problème de pas partager, on se retrouve dans une situation un peu égoïste. Et j'ai trouvé un problème. Je sais qu'il y a un attaquant qui a une certaine méthode de fonctionnement, et je le partage avec quasiment personne ou mon cercle hyper fermé. Alors, Yvan, ça va être pareil de son côté. Quand on opère un SOC, déjà le premier cercle fermé, ça va être nos propres clients qui vont en bénéficier, puisque quand on est en SOC opéré, on n'est pas obligé de donner l'information primaire au client. On met en place la protection, donc on divulgue pas d'information à un tiers dans ce cas-là. Ça reste dans nos équipes. Mais si on fait ça, on a un gros souci, et je pense que mes deux voisins vont probablement partager, c'est que si je fais ça tout seul dans mon coin, en fait, je vais jamais échanger avec les autres et les autres vont jamais me donner. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche quand même assez fort dans l'échange CTI, c'est les relations et les échanges qu'on a entre communautés. Et ça, enfin, il y a des règles qui existent. Alors, Yvan a cité une information importante qui me tient aussi à cœur, qui est, moi, ce que j'aime bien dire, la notion de TTL en réseau, donc time to live. C'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'une information donnée un jour est valable toujours. L'exemple pourrait être, hier, j'ai blacklisté une IP. Depuis ça a bougé et puis j'ai blacklisté un site qui est devenu licite. Celui-là il est assez simple, mais il y a des sujets un peu plus sioux. Mais il y a une notion aussi qui est pour la diffusion qui est prévue en CTI, il y a le Traffic Live Protocol, donc TLP avec des couleurs red, finalement il y a que les destinataires qui veulent l'avoir. Mais c'est pareil, ça va pas très très loin, parce que si je voulais envoyer à vous en red, vous n'avez pas le droit de le partager avec votre voisin. Pour avoir le droit de le partager avec votre voisin en structure, il faut déjà qu'on passe en Amber. Et après il y a le green qui est avec vos partenaires, et puis après le white c'est disponible publiquement. Donc on a besoin de partager, parce que si on partage pas, déjà on profite pas de l'intelligence collective, on va dire, des échanges, de ce qu'ont vu les autres. Et là, pour éviter de partager tout n'importe quoi avec n'importe qui, justement, il y a l'usage de ces TLP qui sont utilisés au travers des différents réseaux, des multiples réseaux en fait qu'on a chacun de notre côté.
Oui, juste pour rebondir, il y a aussi quelque chose qui est intéressant sur le partage. Je dirais dessus, il y a on a ce qu'on appelle souvent les certes qui fonctionnent bien, qui communiquent entre eux. Mais ce que je pense qui manque réellement sur le partage, c'est faire communiquer les. Alors, d'un point de vue purement cocorico, c'est faire communiquer les SOC entre eux pour le partage des incidents. C'est évidemment toujours problème quand ce sont des SOC commerciaux, ce genre de choses, je l'entends bien. Mais il y a souvent un partage d'incidents qui est ultra pertinent. Et le travail que je disais, où justement on est en train d'essayer de réévaluer en fait finalement qu'est-ce qui est sensible dedans, c'est faire ça pour chacun d'incident. Est-ce que l'incident lui-même est sensible, ou est-ce que c'est l'endroit où c'est arrivé, donc c'est ça qu'il faut pas que je dise? Et donc finalement l'incident lui-même, ou la méthode comment ça s'est fait, le partager entre les SOC, ce serait quelque chose d'assez très pertinent. Et c'est ce que justement on travaille justement sur ce genre de choses, pour essayer de faire discuter les SOC entre eux.
Une troisième ou quatrième dimension, Renan, que je souhaiterais qu'on aborde avant de passer aux questions avec la salle, c'est par rapport au paradoxe de notre société que vous avez présenté dans votre exposé. Quel scénario, finalement, pourriez-vous imaginer et avec quelle probabilité pour résoudre ces paradoxes? d'une part, et d'autre part, bah, du coup, Yvan et Nicolas, j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus, sur ces paradoxes sociétaux qui sont vraiment très intéressants et qui nous concernent tous.
Bah, sur les paradoxes, on l'a dit, on avait une posture quand même assez humble, c'est plus des ressentiments qu'on a, donc c'est vrai qu'on pourrait, certains pourraient discuter pourquoi vous avez mis ce truc-là à droite ou pourquoi ce truc-là à gauche. La grande vulnérabilité, donc c'était le premier pour nous, pour moi, ce qui est une vulnérabilité, donc c'était dans la partie intégration, et c'était le premier, c'est ce qu'on va appeler affaiblissement du chiffrement et réquisition technologique, donc c'est-à-dire un État qui va demander à un de ses acteurs industriels, donc qui va réquisitionner un de ses acteurs industriels pour introduire des vulnérabilités à des fins, donc ça peut être tout à fait légitime, de lutte contre le terrorisme, etc. etc. Le problème, c'est que personnellement, j'ai une vision très ingénieure, et qu'à partir du moment où on crée l'opportunité, on aura beau créer tous les process qui vont, il y aura toujours un acteur plus puissant que vous qui pourra l'exploiter. Et donc nous, ça nous semble extrêmement dangereux, et que il faut pas baisser le niveau de la sécurité pour en croyant qu'on va l'augmenter. Donc ça, c'est vraiment le gros warning. Ensuite, après, c'est des choix de société, c'est des choix aussi individuels. Si vous avez envie de vous faire pucer et de balancer du RFID partout, c'est votre liberté individuelle. Et s'il y a aucune loi qui l'interdit, on va pas. Enfin, c'est notre responsabilité, justement, même si on n'est pas d'accord avec ces choix de société, de quand même leur proposer des solutions pour se protéger, et pas de dire tu l'as choisi, t'as choisi de prendre une moto, tu choisis de t'écraser au premier virage, quoi. Donc parce que t'as pas de ceinture de sécurité. Non, mais enfin, c'est un peu la problématique. On n'est pas des politiciens, en fait. Donc on est là pour essayer de protéger les gens, les sociétés, les organisations. Après, il y a quand même des grands warnings. Donc je le répète, affaiblissement du chiffrement, c'est non, quoi.
Nicolas, Yvan.
Moi, je reprends une partie de ce que vient de dire Ronan. Quoi qu'il arrive, quand il y aura des lois qui seront dictées par la société, nos sociétés ne feront que s'y conformer. Et on essaiera toujours de trouver une solution qui permettra à aider la posture de défense, dans la mesure où on reste dans la légalité. C'est le pouvoir judiciaire, enfin le législateur a raison, c'est comme ça, et on doit s'adapter, on doit vivre avec, on doit vivre avec notre société et ses évolutions, c'est un fait.
Si je peux juste compléter, c'est faut aussi comprendre du coup qu'on est, surtout chez les Occidentaux, on est de plus en plus individualistes, et que si au bout d'un moment les lois des États, donc toutes légitimes qu'elles sont trop contraignantes, et il faut comprendre que les gens vont justement partir sur les systèmes parallèles qu'on a pu présenter. On voit en ce moment se développer tout l'engouement autour de la tokenisation et des crypto-monnaies parce que les gens ils ont plus confiance dans les banques, parce que les gens ils ont plus confiance. Parce qu'on a des, on peut là s'assurer un livret A et on a des taux de merde alors que les gens ils se font des millions. Et si on contraint beaucoup trop, en fait, on va, les gens ils vont se déplacer et ils vont créer leur propre utopie, quoi, quasiment, et recréer leur système à côté. Et du coup, ils vont gagner de la liberté, mais nous on sera plus là pour essayer de les sécuriser, et puis même à leurs yeux on ne sera même plus légitime pour leur donner des préconisations de sécurité, puisqu'on a également aidé un petit peu ceux qui les ont chassés ou qui les ont traqués.
Ils vont en direction, non?
Pas mieux.
Oui, non. On a une dizaine de minutes pour les questions relatives à tous ces sujets qui ont été abordés ce matin. Donc Benoît vous a volontairement frustré pour que vous puissiez préserver, garder vos questions pour maintenant. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. C'est toujours le plus difficile, c'est de poser la première question. Oui, il y a une main qui... Ah bah... Je t'ai vu, Erwan. C'est une private joke, puisque chaque année, je ne vois pas lorsque Erwan lève la main. Cette année, je t'ai vu.
Merci Damien. J'ai une question qui est plus pour Yvan, mais qui touche un peu toute notre communauté. Tu travailles beaucoup sur les problématiques justement de rapprochement des données, des traces que les gens laissent. Finalement, est-ce que il vaut pas mieux quand on essaie de se protéger notre vie privée, avoir finalement des trucs qui ressemblent à tout le monde, c'est-à-dire avoir des petits mots de passe à la con qui vont se faire casser et des adresses e-mail qui paraissent standards mais qu'on multiplie et du coup ça rend le rapprochement difficile, ou plutôt que d'avoir des super mots de passe de la mort qui tue qu'on va voir corrélés par les hashes, etc. Enfin, quel est ton avis sur cette posture de défense que on peut tous avoir au quotidien?
Alors c'est en train d'un peu dévoiler, mais oui, d'accord. Alors comment je vais Oui, alors il y a plein de concepts intéressants dans ce que tu viens de dire. Déjà, si on remarque, il y a une vraie problématique actuellement sur le mot de passe. On a vu que la préconisation de dire qu'on devait changer régulièrement son mot de passe tous les certaines périodes de temps, finalement, c'est une idée qui n'était pas forcément si bonne, qui est plus bonne en fait, en tout cas, parce que les utilisateurs mettent une sorte de routine. C'est très classique dans une entreprise de voir quelqu'un rajouter finalement à la fin. Soit le mois, soit quelque chose comme ça, enfin avoir un truc cyclique, 1, 2, 3, 4, 5 pour son mot de passe final. Donc la problématique du mot de passe est très, très intéressant et un peu compliquée. Il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire, qui se fait, et surtout que finalement, ça fait un moment que moi je n'utilise plus de mot de passe en fait. Mes mots de passe sont complètement aléatoires et grosso modo c'est mon téléphone lui-même qui parle double authentification par des solutions qui sont là ou qui m'authentifie, puis quand je suis sur un site web tel que eBay, en fait, à chaque fois, j'ai oublié mon mot de passe, il m'envoie un adresse email, et je me connecte sur le site web. Donc finalement, j'ai plus cette problématique-là. Alors, c'est vrai, pas vrai, parce que j'ai intérêt d'avoir quand même le mot de passe de mon compte mail principal. Donc, il y a une limite quand même à ce que je dis. Ça, c'est le premier point, mais il y a une évolution sur ça. Et t'as dit un deuxième truc, mais j'ai complètement oublié.
C'est le côté ressembler à tout le monde.
Ah oui, ok.
Se protéger, quoi, comment on se protège.
L'ANSSI propose quelque chose que je trouve très pertinent, qui est en fait de dire qu'il faut séparer bien le monde personnel du monde du travail. Et là, actuellement, je vais un peu plus loin, je me demande si on ne devrait pas tous avoir deux personnalités. C'est-à-dire avoir, ok, il y a le travail, mais dans mon monde personnel, peut-être séparer réellement et de bien séparer ces trucs-là, c'est-à-dire avoir une hygiène informatique qui fait que j'ai une identité internet et j'ai une identité un peu plus sociale, avec des choses qui sont importantes, peut-être d'avoir un seul système d'authentification qui est un système d'authentification, par exemple lié avec France Connect, plutôt que d'utiliser des authentifications d'autres comme Google, ce genre de choses. Et parce que ce qui m'embête à chaque fois dans ce problème-là, c'est qu'à chaque fois que je me connecte quelque part, on me demande, Google est au courant, Google, Twitter ou les autres sont tout le temps au courant, parce que c'est par là. Avoir un système français, par exemple, ou européen, qui m'authentifie et qui me gère que les trucs importants administratifs, et un deuxième compte où j'en ai absolument rien à faire, qui est complètement séparé, et que justement qu'on organise ce genre de choses, me paraîtrait être quelque chose d'assez pertinent en fait. Où quand on se fait voler quelque chose d'un côté, c'est pas si grave parce que ma vie n'est pas en train de tomber administrativement de l'autre côté.
Oui, juste au-dessus, une autre question, monsieur.
C'était pas une question, c'était un complément de réponse en fait, parce que on peut très bien gérer sa vie privée sur laposte.net ou des sites français.
Puis, j'allais dire, là je disais en aparté à Yvan, c'est un avantage aussi d'avoir entre guillemets plusieurs identités, parce que moi j'ai déjà une amie qui a eu le problème à titre personnel et je l'ai conseillé pour essayer de le gérer, mais le vol d'identité ça existe aussi sur internet, ça existe aussi sur vos comptes. Alors malheureusement c'était fait avoir et en plus toutes ces questions de changement avaient été changées, donc c'est un avantage de séparer, pas forcément que pour la furtivité comme préconise ou demande Erwan, mais aussi dans le cas où il y a du vol d'identité, si on vous a volé une de vos identités, comme dit Yvan, il en a beaucoup. Ça vous permet au moins de garder le contact et de pas vous être fait voler toute votre vie, si je puis dire. Voilà.
D'autres, oui, monsieur, juste derrière.
Oui, je vais évoquer un cas qui est peut-être un peu particulier, qui est le cyberespionnage dans les réseaux, les futurs réseaux de véhicules communicants. Au-delà des organismes qui ont été cités abondamment au cours de ces journées, nous, INRIA, sommes en relation avec un autre organisme qui s'occupe de ces questions-là, qui s'appelle l'OCDE, le Palais de la Mouette, à Paris 16e, et qui émet des recommandations destinées aux différents gouvernements européens en matière de politique, notamment de cybersécurité. Et un des sujets qui est discuté furieusement actuellement, c'est de savoir dans quelle mesure, je fais référence à la GDPR, la protection des données à caractère personnel, dans quelle mesure ces obligations d'obtention de consentement ou d'interdiction d'exploitation de données récupérées de manière, disons, ad hoc, pour ne pas utiliser un autre adjectif, doivent être considérées comme tombant sous le coup de la GDPR si ce sont des données qui sont pseudonymisées, parce qu'il y a réversibilité, et donc on doit les considérer comme des données à caractère personnel, ou bien, au contraire, de la mesure où on peut pouvoir anonymiser complètement les données en question, dans ce cas-là, elles ne tomberaient pas sous le coup de des obligations relevant de la GDPR. C'est un sujet ouvert actuellement. Est-ce que vous avez des avis sur la question ?
Oh non.
Du coup, juste sur la pseudonymisation, certes, c'est une opération réversible, mais le but, la bonne pratique serait que les gens qui traitent les données pseudonymisées n'aient pas le moyen de réversibilité. On va pas, le but, faut du coup ségréguer la personne qui est capable d'effectuer les transformations et les personnes qui vont analyser les données. Après le cadre de la question, je pense que ça me dépasse un peu. Moi, je suis spécialiste en CTI. Je peux pas trop vous aider.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà, ça ouvre aussi des cadres de réflexion. Il nous reste 2-3 minutes pour prendre une autre question, madame. Juste à côté de.
Oui, bonjour. C'était une question en rapport avec le RGPD et les interventions d'hier sur les red teams. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nature juridique lié notamment au consentement des salariés si il y a une opération furtive qui est réalisée dans une entreprise avec, par exemple, dump intégral de la base de données et donc de toutes les données personnelles?
Alors déjà, pour moi, le Red Team est un peu dans le même cas que la CTI, puisque les personnes hier ont présenté la collecte d'informations, etc., etc., sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est vrai que bon, il y a des prises d'informations en interne. Ensuite, le consentement, et vraiment, on a été assez étonné là-dessus, n'est que un moyen de passer l'étape. En fait, il y a plein de... Donc nous, on a cité, on se base sur l'article 6.1F, je crois, qui, en fait, pour des raisons légitimes, blablabla, etc. Donc en fait, faut prouver notre légitimité. Et donc je pense que l'arrêt de team, bien sûr, ça reste dans le cadre de la réalisation d'un contrat commercial ou d'une mission, si c'est dans un cadre interne et non commercial. Et je pense que très facilement ça peut justifier. Mais par contre, effectivement, à mon avis, les activités de Red Team doivent faire un petit peu le même travail que nous on a essayé de faire, parce que fondamentalement, on fait le même métier. C'est juste que nous, on n'a pas la partie usage, voilà. On n'a pas la partie réalisation, mais on fait toute la partie en amont. Et les activités, à mon sens, sont vraiment très similaires.
Il y a un complément, c'est aussi dans le contrat qu'a la société par rapport à son prestataire d'audit. Ce point-là devrait être couvert par le contrat, parce que c'est une des actions aussi qui permet de le limiter, c'est de déclarer les sous-traitants et de déporter aux sous-traitants les mêmes contraintes et ce qu'il va faire de la donnée, le temps qu'il va le garder et la non-conservation.
Oui, alors dans le papier, je crois qu'on en parle vite fait. Ça s'appelle, je crois, les clauses contractuelles type ou un truc comme ça, qui sont des trucs qu'on peut... Ouais, voilà. Il y a des exemples donc qui sont donnés soit par la CNIL, soit par le niveau européen, où en fait ça permet de
Enfin, moi, j'avais regardé ça dans le cadre où, bah, typiquement, parmi nos sources en CTI, ça va être des domain tools, des virus total, etc. Et donc, en fait, on fait du transfert international de données, en plus, à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, on est dans le pire des cas. Et via des clauses contractuelles type, on peut, enfin, via ce genre de contrat, on peut, du coup, répondre à ce genre de questions, sans passer par un binding corporate rules, enfin, qui doit être accepté par les 28 membres de l'Union européenne. Donc, en fait, c'est un parcours du combattant pour toute entreprise qui veut faire un BCR. Mais du coup, enfin, il y a énormément, enfin, la CNIL a fait un travail, enfin, et l'Europe a fait un travail de contrat type, avec, ouais, des exemples. Donc, je pense que là-dessus, ça, au niveau contractualisation, ça peut se faire assez bien.
Merci finiment. Une dernière question, un regret, un rebord. Merci infiniment, Nicolas, Yvan, Renan. On ira. J'ai vu qu'il y a un food truck vietnamien qui s'est installé juste à l'entrée du triangle. Donc, on va prendre une petite bière asiatique ou un petit shot de saké tout à l'heure ensemble. Mais d'abord, je veux réclamer évidemment toute votre attention. Premièrement, pour féliciter, remercier et applaudir chaleureusement Benoît et Magali pour l'organisation de cette 24e édition de César, tout particulièrement réussie. Et nous laissons la parole à Marie-Noëlle Sclaffer, donc directrice de Géométrie de l'information, pour la clôture de cette édition.